Merci pour ta présence ce matin, merci pour ton amour, merci pour cette grâce que tu déverses aujourd'hui. Merci d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts à accueillir ta parole ce matin. Que ton esprit, ton onction, oui, coule sur nous et que tu puisses venir nous fortifier, que tu puisses venir nous encourager, nous corriger si nous avons besoin d'être corrigés, Seigneur. Que notre esprit vraiment soit à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Merci pour ta bienveillance, merci pour ta douceur, Saint-Esprit, et que chacun soit béni ce matin. Alors, ce matin, je voulais vous partager un message autour d'un thème, d'une thématique qui est une thématique d'actualité dont le monde parle beaucoup. Mais la parole de Dieu aborde aussi ce sujet. Et le Seigneur et le Saint-Esprit m'ont vraiment arrêté sur cette thématique depuis quelques semaines déjà, voire quelques mois. Et je trouvais que c'était intéressant de vous le partager ce matin. Et je vais vous donner tout de suite les versets qui vont servir de colonne vertébrale à mon message. C'est dans Galates 5, au verset 7 et au verset 8. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle. Et qui dit aux Galates, « Vous courriez bien ». Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. C'est le verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, qui est vraiment le verset sur lequel je me suis arrêté. Je vous donne tout de suite le titre du message, comme ça c'est fait, et c'est en lien avec le verset. Et c'est en. Alors, c'est pas une phrase. Et c'est pas un titre affirmatif, ça va être une question, une interrogation. Voilà, j'ai envie qu'on s'interroge et qu'on se pose des questions ce matin. En tout cas, moi, quand j'ai préparé le message, je m'en suis posé plein. Je me suis repenti un nombre incalculable de fois. Et ce titre, c'est « Sommes-nous influencés par celui qui nous appelle ?» Sommes-nous influencés par celui qui nous appelle ? Donc, on va partager plusieurs points autour de cette thématique et je prie vraiment que le Seigneur puisse nous interpeller dès maintenant et qu'il nous montre quelles sont les influences qui aujourd'hui guident nos vies. Quelles sont les influences qui viennent d'hommes, de femmes, de groupes, qui viennent du monde. Et quelle place on laisse à l'influence de Dieu dans notre vie? Quelle place on laisse au Saint-Esprit dans nos vies? Alors je voudrais revenir au contexte principal de Galates. Dans ce passage, c'est Paul qui s'adresse en fait à des juifs chrétiens qui avaient été évangélisés par lui quelques temps auparavant. Et donc ils sont convertis, ils ont accepté le Seigneur, ils ont accepté sa grâce dans leur vie, mais petit à petit ils se sont écartés du Seigneur et ils ont mis de nouveau leur confiance dans la loi de Moïse. Ils sont revenus un petit peu en arrière. Et l'apôtre Paul, en fait, il cherche à corriger ce problème. Et il va souligner finalement la différence entre le joug de la loi de Moïse, finalement, qui les menait un peu à la servitude spirituelle dans ce contexte, et la différence avec l'évangile de Jésus-Christ qui lui les amenait en fait à la liberté. Et donc ici, Paul, en fait, il s'adresse à ces nouveaux convertis, et surtout, il les met en garde contre un retour en arrière, quoi. Et un retour à une forme de religiosité, à une forme de pratique, de rituel qui était dérivé du judaïsme. Et là, Paul, en fait, il va livrer un combat contre des faux docteurs, contre des fausses doctrines. Et l'épître aux Galates, en fait, elle détaille un petit peu tout ça. Et elle est destinée à ouvrir un peu les yeux de ces nouveaux convertis sur le salut complet que Jésus nous a acquis à la croix. Un salut complet et parfait, et pas autre chose. Donc quand on parle d'influence, c'est le mot-clé, hein, vous aurez compris, de ce message. Quand on parle d'influence, de quoi on parle? Alors dans la Bible, le mot n'est pas cité tellement de fois, mais en tout cas dans le verset 8, c'est le mot grec qui est « peismoni ». « Peismoni », ça veut dire « persuasion ». Mais c'est un sens un peu négatif, parce que dans la traduction grecque, ça parle de persuasion traître ou trompeuse. Donc déjà, dans la définition de ce mot, il y a une alerte. C'est-à-dire qu'une influence qui vient du monde et qui vient des hommes, elle a comme racine quelque chose qui n'est pas très net. Il y a une notion de tromperie, il y a une notion de fausseté. Et quelque chose qui viendrait finalement en contradiction avec Ce que Jésus nous dit dans Jean 14 au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Donc la véritable influence qui doit nous guider, c'est celle du Fils, c'est celle qui nous mène au Père et qui nous montre la vérité et qui va contredire toutes sortes d'influences extérieures finalement. Donc c'est pourquoi on a besoin aussi de se rappeler quotidiennement l'avertissement du, j'allais dire du proverbiste, mais ça se dit pas ça, on dit le psalmiste, hein, mais proverbiste ça n'existe pas. Non. Donc c'est dans Proverbe 14 au verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Donc influencer, si on va continuer sur ce thème, ça revient à fléchir un point de vue. Donc on avait un point de vue à un moment donné, on avait une conviction, et puis finalement on est persuadé, on est influencé, et on finit par adopter un nouveau point de vue et de nouveaux comportements. En fait, une influence sur quelqu'un, mais aussi sur quelque chose, ça produit toujours un effet. Donc faites très vigilant sur ça. Et puis ça marche toujours. L'homme, par nature, il est influençable. Ça commençait déjà avec Adam et Ève, hein, pour ne citer que cet exemple. Ils ont été influencés. Et puis quand on observe la nature, on a exactement le même phénomène. Regardez le climat, par exemple, il va influencer la végétation. Trop de chaleur comme en ce moment, pas de pluie, vous avez une sécheresse, vous avez l'herbe, la végétation qui se flétrit, qui jaunit, qui n'est pas jolie. Et puis vous avez la pluie qui va arriver, on vient juste de le chanter. Et puis vous avez donc la végétation qui va être ravivée, vous avez des nouvelles couleurs qui vont arriver, une nouvelle fraîcheur. Donc vous voyez où je veux en venir, trop de... Si on a trop d'UV, trop d'exposition aux UV des influences extérieures, ben on va avoir une sécheresse spirituelle qui va commencer à se manifester. Alors que si on s'expose à des bonnes UV, les UV de la parole de Dieu, ben là ça va être un rafraîchissement, ça va être vraiment une fraîcheur nouvelle dans notre esprit. Et il ne faut pas aller chercher ces ressources dans le monde, mais s'attendre vraiment à ce que la parole de Dieu qui est agissante, elle nous procure ces ressources. 2 Corinthiens 6 au verset 14, si tu veux l'afficher, Max, nous dit, nous met en garde, c'est encore Paul, hein, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Où qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Alors c'est très important d'avoir ces notions en tête parce que, comme vous le savez, notre monde regorge aujourd'hui d'influenceurs. Alors là, je vais faire une parenthèse, mais je crois qu'elle est importante. Les influenceurs, vous savez, ce sont ces stars d'Internet, du web, des réseaux sociaux, etc. C'est devenu un métier à part entière, d'ailleurs. Et on les appelle youtubeurs, instagrammeurs, tiktokers, tout ce que vous voulez. Et ils ont tous des spécialités qui paraissent comme ça un peu anodines. Un influenceur mode, un influenceur voyage, un influenceur jeux vidéo, un influenceur cause diverses et variées, LGBT, écologie, etc. Enfin, il y en a des tonnes. Et le but de ces gens-là, c'est de fédérer un maximum de gens, donc de créer une communauté avec laquelle ils vont interagir. Et cette communauté, finalement, plus elle grandit, plus ça va générer des profits, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Derrière, vous avez des marques et vous avez des puissances financières, en fait. Derrière des gens qui, a priori, sont inoffensifs, hein, ils sont tous, a priori, très gentils, ils sont pas offensifs, hein, ils sont pas méchants. Mais l'idée, c'est quand même de nous vendre des produits tous plus inutiles les uns que les autres. Enfin, moi, c'est mon avis. Et nos jeunes sont vraiment la cible privilégiée de ces influenceurs. Vigilance, les jeunes. Ayez du discernement. Il ne faut pas vous laisser manipuler par ces gens et ces stratégies grossières qui viennent, à mon avis, du prince du mensonge et qui, en fait, cherchent à nous faire désirer des biens matériels, à nous faire désirer des choses qui sont présentées, finalement, comme si elles avaient le pouvoir de donner la vie. Ça, c'est le grand mensonge de l'ennemi, finalement. Mais nous, chrétiens, né de nouveau, on est en Christ. Jésus est mort pour nous. Et nous, on est convaincus que rien de ce qui est matériel ne pourra jamais satisfaire notre âme. Ça, c'est une vérité. Et Dieu nous offre vraiment une alternative à ces fausses promesses du monde. Une alternative qui donne réellement la vie. Et cette alternative, c'est qui ? C'est lui, c'est Jésus. Il n'y a pas autre chose. Je voudrais qu'on affiche Éphésiens 5, au verset 15. Là, c'est encore Paul qui, décidément, met beaucoup en garde contre ces choses-là. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et on peut continuer, 17 et 18. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Voyez-vous, il existe, à mon avis, une vie bien meilleure, bien plus riche, bien plus satisfaisante. Et cette vie-là, c'est celle qu'on trouve en Christ. Les plaisirs qu'on va trouver en lui vont transcender tout ce que le monde peut offrir. Il nous est parlé dans le verset 16 de racheter le temps. Le temps, c'est un bien précieux d'après Dieu. Donc il est temps de passer sans doute beaucoup moins de temps sur nos portables, sur les réseaux sociaux, nous laisser conduire, plutôt influencer par le Saint-Esprit qui nous remplit, nous dit le verset 18. Et je ferme la parenthèse, mais je pense que c'est vraiment important de voir comment, en plus des médias, en plus de différents groupes politiques, groupes, cercles d'influence, etc., comment le monde est désormais influencé finalement par cette caste d'influenceurs qui sont de simples citoyens, encore une fois, des gens qui paraissent inoffensifs, mais qui ont, à mon avis, une influence vraiment néfaste sur les gens et qui les éloignent de la réalité du royaume de Dieu. Vous savez, je pense que quand on passe des heures à naviguer sur Internet, sur les réseaux sociaux, d'influenceur en influenceur, comme ça pendant des heures, c'est pas du temps qu'on passe à prier, à intercéder, à louer le Seigneur et être dans des œuvres préparées d'avance. Donc, soyons vraiment vigilants à ça. Et juste pour finir, j'ai eu la curiosité d'aller voir ce qu'était un influenceur et combien pesait, entre guillemets, le plus gros influenceur de France. Parce que vous savez qui c'est d'ailleurs, le plus gros youtubeur de France. Il s'appelle Cyprien. Moi, je ne le connaissais pas avant de faire ce message. Alors Cyprien, c'est un garçon qui fait du réseau social depuis des années. Il est spécialisé dans le jeu vidéo. Il fait d'autres choses aussi maintenant. Et vous savez combien il fédère de personnes sur sa page YouTube ? Combien d'abonnés il a ? Combien ? 2 millions ? 15 millions. 15 millions d'abonnés pour un garçon qui s'appelle Cyprien et qui influence des tas de garçons et de filles en France. Et ce n'est qu'en France. Alors j'ai voulu me faire mal et derrière j'ai été regarder, tiens, combien de chrétiens fédèrent le CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France. Ça vous parle ? Même pas. Entre 750 et 800 000. Et pour être dans la logique des médias, etc., un média bien connu aussi, MCI TV, qui est un média chrétien, international, francophone, etc., 1,5 million d'abonnés sur leur page YouTube. Donc on a vraiment du boulot pour que le royaume de Dieu soit manifesté dans ce monde, parce qu'effectivement, il y en a d'autres qui travaillent à influencer sous des formes qui ne sont pas forcément les formes qu'on voudrait. Donc il est urgent de faire vraiment cette invitation que nous fait l'apôtre Paul dans Romains 12, 2. Hein, tout le monde connaît ce verset et je crois que c'est vraiment urgent de nous le mettre en tête et de le méditer. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce n'est pas la vie rêvée des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas cette vie extérieure, manifestement jolie, belle, etc., qu'ils nous promettent. D'ailleurs, combien sont harcelés, combien sont suicidés. Enfin, c'est un monde bien particulier. Non, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est vraiment ce que le Seigneur cherche à nous offrir, c'est bien plus, quoi. Et ce qu'on veut, c'est être en communion parfaite avec lui, c'est discerner sa volonté pour notre vie. C'est lui, ses plans à lui sont parfaits, hein, et les plans de ceux qui peuvent nous influencer le sont pas, loin de là. Lui, il a des projets de paix pour nous. Il a des projets d'avenir, il a des projets de bonheur, donc arrêtons-nous sur lui. Écoutons ce que disait déjà le prophète Ésaïe, Ésaïe 2 au verset 22. Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il ? Une autre traduction dit, arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain, sa vie n'est qu'un souffle, quelle est en effet sa valeur ? Donc il faut pour cela, je pense, laisser l'Esprit de Dieu dominer notre esprit et notre esprit dominer notre chair. Vraiment, le défi, c'est que notre chair, elle soit crucifiée jour après jour. C'est un travail de longue haleine et c'est pas pour rien que Jésus nous demandait d'ailleurs de porter notre croix. Alors oui, on peut être attaqué par l'ennemi, il peut y avoir des attaques sataniques, etc. Mais notre ennemi numéro un, je pense que c'est vraiment notre chair. C'est dans ce contexte, en fait, que le Seigneur m'a interpellé il y a quelques semaines, et quand j'ai reçu une pensée, et cette pensée, c'était « méfie-toi de la mort déguisée en vie ». J'ai eu cette pensée vraiment très claire dans mon esprit. « Méfie-toi de la mort déguisée en vie ». Je crois en effet que le monde d'aujourd'hui, il pervertit la réalité, il pervertit la vérité, et il va avoir tendance à appeler lumière, à appeler vie, à appeler amour, ce que Dieu, lui, va appeler ténèbres, va appeler mort, va appeler abomination, va appeler idolâtrie. Et cette pensée, elle a suivi en fait une expérience assez peu banale que j'ai faite il y a quelques mois, lorsque je me suis retrouvé à errer, et c'est vraiment le mot, à errer, dans une grande librairie, complètement par hasard, alors que j'étais en déplacement professionnel. Je raconte l'histoire rapidement. J'étais en déplacement entre deux magasins que je devais visiter dans le cadre de mon travail. Et là, entre ces deux magasins, je suis sur l'autoroute et je sors de l'autoroute. Pourquoi ? Je me retrouve dans une grande surface. Il y avait une grande librairie et là, je vais dans cette librairie. Et je me retrouve en fait en face d'un rayon qui s'appelle « Épanouissement personnel ». Il y avait un nombre incroyable de livres dans ce rayon, des milliers. Et le thème, en fait, principal, au-delà d'épanouissement personnel, c'était ésotérisme, vous voyez. Et c'est une thématique, en fait, qui influence, je m'en suis rendu compte après, en faisant des recherches, un nombre de plus en plus élevé de personnes qui sont en quête de sens, qui sont en quête de spiritualité, de transcendance, qui veulent trouver une vérité. Et je peux même vous citer les sous-rayons, parce qu'il y a donc ce rayon épanouissement personnel, et il y a des sous-rayons. Alors, j'ai regardé, il y avait astrologie, ésotérisme, feng shui, relaxation, yoga, méditation, art divinatoire, tarot, numérologie, sorcellerie. Le guide de la sorcière moderne. Tiens, j'avais trouvé un livre qui avait l'air plutôt sympa. Il y a des petites BD, des petits dessins. Apprenez à exploiter votre pouvoir magique, âme de sorcière ou la magie du féminin. Puis des tas d'objets, des pierres, des pendules et j'en passe. Alors là, évidemment, je me retrouve là. Mais je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'emmènes là ? C'est quoi ce délire ? Qu'est-ce que je fais là ? C'est quoi le sens ? Qu'est-ce que tu veux me montrer ? Alors, il y a un vendeur qui passe par là, et puis je l'alpague, et il y a une question qui me vient. Excusez-moi, est-ce que je peux trouver des livres chrétiens ? Est-ce que je peux trouver une Bible dans votre librairie ? Et elle me dit, oui, il n'y a pas de problème. Vous voyez, là-bas, c'est le rayon philosophie, sciences humaines. Vous devez en avoir dans l'étagère, là-bas, tout en bas. Puis là, je dis, OK, je vais aller voir. Mais là, derrière, ça a l'air de cartonner, les bouquins, là, développement personnel, etc. Il y en a des millions, c'est incroyable. Je dis oui, ça se vend très bien. Enfin, il me dit, ça se vend très bien. C'est un vrai carton d'édition, on n'arrive pas à les tenir, c'est incroyable. Donc on met toujours en sorte que le rayon soit bien rangé, que ça soit bien, très bien. Et juste après, je vais quand même voir si je trouve une Bible. Et là, je vais au fameux rayon, l'étagère tout en bas. Et je n'ai pas trouvé de Bible. Zéro. Pas une seule. Pas une Bible. Oui, alors quelques livres chrétiens, quelques livres sur le pape, quelques traités, etc., quelques Corans, pas une Bible. Alors, je me suis renseigné, c'est vrai que l'ésotérisme, c'est un vrai carton d'édition. Alors, j'ai été voir un article. Bon, je vais vous le lire parce que c'est éloquent et ça donne l'idée de ce que, une idée de comment, comment ça fonctionne. Donc, si le marché du livre se porte plutôt bien malgré la crise sanitaire, la vente de livres ésotériques, elle s'envole. Longtemps réservée aux lecteurs initiés, majoritairement féminins, l'ésotérisme est un genre littéraire en plein essor. Aussi bien sur le plan commercial qu'éditorial, l'ésotérisme interpelle aujourd'hui un jeune lectorat. Pour répondre à cet intérêt grandissant, les maisons d'édition multiplient les concepts novateurs. Des auteurs, tiens, tout droit issus des réseaux sociaux, viennent quant à eux dynamiser le secteur. 2021 a été une année phare pour la vente de livres ésotériques. L'augmentation des ventes de livres sur l'ésotérisme est sans pareil. En France, la hausse des ventes a atteint 60%. Ça fait déjà plus d'un an et demi que la Covid-19 est venue bousculer nos vies. En réponse à cette perte de repères, de nombreux lecteurs en quête de sens se tournent vers l'ésotérisme. C'est donc un constat effrayant, mes amis. Les gens, ils cherchent une vérité, mais ils ne trouvent pas la vérité, avec un grand L et un grand V. Ils se tournent vers des fables. Des fables qui, elles aussi, paraissent inoffensives. C'est des fables, comme les influenceurs tous les jours nous en racontent, ça paraît inoffensif, mais là, on est sur un terrain plus dangereux, là on est sur un terrain qui est le terrain du spirituel, et c'est un combat que l'ennemi mène vraiment, il me semble, avec efficacité, parce que il arrive en fait à faire croire, le prince du mensonge, que ces gentilles fables, elles sont bonnes, elles sont douces, elles portent de la lumière. L'exemple sur les gentilles sorcières, c'est exactement ça. Et les gens accourent, ils accourent. Et le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 5 au verset 20, il lançait déjà cet avertissement en disant que le monde appelle lumière ce que Dieu appelle lui ténèbres et aveuglement. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Et Paul le vivait aussi de son temps. Et il déclarait dans 1 Timothée 4, au verset 1, mais l'Esprit déclare, c'est pas la même traduction, mais on va le lire là, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et un peu plus loin, dans 2 Timothée 4, au verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. L'apôtre Paul, là, si on peut remettre peut-être 1 Timothée 4, 1, juste avant, l'apôtre Paul nous parle des derniers temps. Si quelqu'un avait un doute, mes amis, ces derniers temps, je crois qu'on est en train de les vivre. Quelle preuve plus éclatante que ce foisonnement d'influences, qu'elles soient mondaines ou spirituelles, pour nous en convaincre? Et nous, ben nous, on prêche l'évangile de Jésus-Christ. Et face à toutes ces belles influences, ben on n'a pas toujours en face de nous des interlocuteurs bienveillants, des... souvent des gens qui se moquent de nous. On a des gens qui n'acceptent pas. Mais soyons encouragés. Regardez ce que nous dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 3, au verset 3. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Ça, c'est un message, moi, qui me donne de la confiance et qui me dit que Jésus sera au rendez-vous, même si ça foisonne autour de nous, même si ça ne va pas dans le bon sens. Et plus loin, au verset 17, voilà comment il nous exhorte encore. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes, vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, au verset 18, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc face à ces influences dans le monde naturel et dans le monde spirituel, alors comment on se positionne ? Alors bien sûr, notre position, elle est en Jésus-Christ. Elle doit pas dériver d'un iota. Moi, j'ai deux versets clés qui fondent mes deux pieds dans ma foi. C'est le premier, on l'a cité tout à l'heure. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Là, il ne nous dit pas tu aimeras ton Seigneur ton Dieu avec une partie de ton cœur, une partie de ta pensée, une partie de ton âme. Non, c'est tout. On doit tout lui donner et toute la place est prise. Donc il n'y a pas de place pour une quelconque autre influence. Aucune autre influence ne doit pouvoir s'immiscer. Donc une fois que cette position elle est réglée, on doit se poser la question de notre appel finalement, notre responsabilité face à cette situation. Situation quand même plutôt désastreuse. On est dans les derniers temps, enfin ça me semble évident, et Jésus revient bientôt. Donc c'est quoi notre appel ? Est-ce que c'est pas, nous en tant que chrétiens, d'être influents à notre tour ? Mais influents comment ? Influents avec nos propres forces, avec notre chair, avec... Non. Nous, d'être influents, mais de par l'influence en nous du Saint-Esprit. On n'a pas arrêté de le chanter ce matin. On doit être influents parce que notre appel, il est de combattre ces réalités. Et avec les armes que Dieu nous donne. Là aussi, il y a un verset 2 Corinthiens 10 au verset 4 qui nous dit... Et ça aussi, ça doit nous encourager, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc l'Église doit être une Église influenceuse elle aussi. Et chaque pierre de cette Église que nous sommes doit influencer dans les sphères dans lesquelles on est appelé à évoluer. On doit influencer dans la famille, avec les amis, dans le quartier, dans notre ville, dans notre travail, etc. Mais soyons influenceurs par l'influence du Saint-Esprit en nous. Et comment est-ce qu'on influence avec le Saint-Esprit en nous ? Il y a un verset que je crois quand j'ai l'honneur de prendre la parole ici, que je cite toujours, et je vais encore le faire là, parce que c'est Galates 5, 22. Les fruits de l'Esprit, c'est comme ça qu'on manifeste le Christ en nous, et c'est comme ça qu'on peut être influent. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bonté. La patience, la bénignité, l'amabilité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Dieu nous appelle à marcher par l'Esprit, à marcher par l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de notre nature propre, de notre chair. Et gardons-nous vraiment des œuvres funestes de la chair, c'est ça le danger numéro un. Alors oui, les attaques de l'ennemi existent, je le disais tout à l'heure, mais vraiment le principal danger c'est notre chair et ses passions. Et si on remonte un peu dans Galates au chapitre 5 et qu'on va au verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Est-ce qu'on peut pas voir là l'influence de la pornographie, l'influence de la convoitise sexuelle qui mine tant de gens, l'idolâtrie, la magie, est-ce qu'on ne voit pas là l'influence de toutes ces modes spirituels autour de l'ésotérisme, toutes ces pratiques qui pullulent aujourd'hui dans la société, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions, là encore, influence du monde politique, avec des disputes sans cesse sur des tas de sujets, tous aussi vains les uns que les autres. Les médias, c'est la même chose. Vous avez une émission, elle a du succès Et elle cartonne à partir du moment où vous avez des gens qui font des clashs, qui se disputent, qui se divisent, et ça crée du buzz, et ça crée des choses à n'en plus finir. Les sectes, bon, là aussi, vigilance dans nos églises. Est-ce que l'évangile de Jésus-Christ est bien prêché, ou est-ce que c'est pas pour le profit de quelques faux docteurs ou de quelques loups déguisés en agneaux? L'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Donc là encore, influence de la convoitise, du matérialisme ambiant et des choses semblables. Et là, un avertissement, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Donc soyons des influenceurs exemplaires, des ambassadeurs de la parole de Dieu, des imitateurs de Christ. Et faisons nôtre cette exhortation de Paul dans 2 Timothée 4 au verset 1. 2 Timothée 4 au verset 1. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Donc cette parole, elle doit vraiment nous encourager à sortir de notre zone de confort, celle où on est beaucoup trop souvent, pour porter et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais concrètement, comment on fait pour présenter notre vision du monde ? Comment on est à l'aise dans ce monde où c'est si difficile de glorifier le nom de Jésus, finalement, auprès des inconvertis ? Et je crois que la clé, elle est dans le « avec toute douceur ». Ça rejoint un peu les fruits de l'esprit qu'on avait vus dans Galates tout à l'heure. Je crois qu'on peut, prêcher, on peut insister, même si les occasions ne sont pas favorables, on peut reprendre. On peut censurer aussi, parce que je crois qu'il ne faut pas faire de compromis avec la parole de Dieu, puisqu'elle est vérité et uniquement vérité. On peut exhorter. Et si on le fait avec douceur, on peut être vraiment des chrétiens influents. Alors je voulais vous laisser avec 5 autres clés éventuelles que j'avais pu noter et qui peuvent nous aider vraiment à avoir cette influence positive. Bah, c'est la numéro 1, c'est la prière. Je crois que vraiment, on ne peut pas faire cette économie-là de la prière, demander l'aide du Saint-Esprit, vraiment à qui il faut demander le soutien. Et il sera très précieux, ce soutien. Il faut prier pour que le Seigneur nous offre vraiment des situations favorables pour annoncer et prêcher la bonne nouvelle. Deuxième point, je pense qu'il ne faut pas faire de concession non plus. Notre vision, elle est vraiment ancrée en Jésus et seulement en lui. Donc on doit présenter la vérité qu'on connaît, il ne faut pas spéculer. N'inventons pas de nouvelles théories. Je crois qu'il faut vraiment être ferme sur ce en quoi on croit. Mais troisième point, il faut rester humble aussi. Je crois qu'il faut savoir dire qu'on ne sait pas tout, qu'on ne connaît pas tout, qu'on est en train d'apprendre, qu'on progresse dans notre cheminement spirituel. Et je crois que l'humilité, c'est aussi une clé importante pour influencer positivement. J'avais un quatrième point, comme on ne connaît pas tout et qu'on peut être mis en défaut finalement, il y a des choses, il y a des mystères que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Alors comment je réponds à ça? Je réponds par l'adoration. Voilà, moi je ne sais pas, mais j'adore mon Dieu, je le loue et je le bénis. Et je réponds à ce mystère par l'adoration justement. Et puis, je veux dépendre de l'aide de Dieu. Et je sais que je n'ai pas besoin du dernier mot. Je n'ai pas besoin de casser la tête avec une Bible à mes interlocuteurs. Je n'ai pas besoin d'avoir le dernier mot pour gagner quelqu'un. Parce que Dieu nous le dit dans sa parole. Toute parole de Dieu qui sort par le canal de notre bouche, elle ne revient pas à lui sans effet. Donc ça doit nous encourager à persévérer. Et même si on pense que la graine qu'on a semée, elle est tombée en terre et qu'elle ne produira pas de fruits, et ben non, Dieu, il la fera peut-être croître à un moment donné. Donc persévérons. Et on peut donc crier à Dieu cette prière que David avait déjà adressée à Dieu dans le psaume 25. C'est les derniers versets qu'on va afficher. Ô Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive, dirige-moi selon ta vérité. Et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je m'attends à toi à longueur de journée. Donc voilà, j'en ai presque terminé. Je voudrais peut-être prier maintenant pour conclure ce message et prier le Seigneur vraiment qu'il nous protège des mauvaises influences auxquelles on peut être soumis. Seigneur, tu nous protèges de ces mauvaises influences et tu travailles, Seigneur, dans notre esprit pour que nous puissions être des influenceurs et des vrais influenceurs selon ta parole, Seigneur. Merci, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci vraiment pour tout ce que tu nous apportes dans notre quotidien. Et Seigneur, je veux prier peut-être pour un frère ou pour une sœur qui peut être découragé aujourd'hui et qui n'arrive pas à se défaire de certains liens, de certaines influences. Alors Seigneur, je sais que tu as envie de lui parler aujourd'hui. Et je sais que tu veux lui dire que tu es à la porte. Comme tu me l'avais dit à moi il y a quelques mois maintenant, lorsque je suis venu à toi et que je t'ai dit oui. Tu étais à la porte et j'ai entendu ta voix. Et aujourd'hui, je crois que tu peux dire à un frère, à une sœur qui est dans le découragement et qui ne t'a pas tout donné, tu peux lui parler et lui peut t'ouvrir sa porte. Alors Seigneur, tu peux entrer chez lui et tu peux t'asseoir à table avec lui. Tu peux lui donner à souper et lui va te donner à manger aussi. Vous allez manger ensemble. Seigneur, ce que tu vas lui donner, c'est ta parole, c'est ta parole vivante. Tu vas lui donner de la nourriture céleste, une nourriture éternelle, qui va le bénir tout au long de sa vie. Mais toi aussi, il faut que tu donnes à manger au Seigneur. Il est à ta table et tu dois lui donner ta vie. Tu dois lui donner ta vie. Et si tu lui donnes ta vie, tu auras des bénédictions éternelles, comme lui te le promet. Il a pour toi des projets de vie. Il a pour toi des projets de paix. Il a pour toi des projets de bonheur. Oui, Seigneur, tu as pour nous des projets de paix. Ta paix, non pas la paix du monde, Seigneur, parce que la paix du monde, elle est éphémère, elle ne dure pas. Alors nous voulons ta paix, Seigneur. Et nous voulons ta joie, pas la joie du monde non plus. La joie du monde, elle est éphémère, elle est comme le vent, elle passe. Seigneur, nous voulons ta joie. Amen. Soyez tous bénis.